Radio Campus Montpellier, 102.2 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nique ta métaphore. Bonjour Laetitia, comment ça va aujourd'hui ?
Ça va bien, je te remercie.
Eh bien ça c'est super, c'est le genre d'énergie que l'on veut. Pour cette émission, nous nous sommes bien creusé la tête pour trouver une thématique. Actualité oblige, hein, nous pouvions vous parler d'Ukraine ou de printemps, mais cela ne nous inspirait pas... mais ça ne nous inspirait pas des masses, comme vous pouvez le comprendre. C'est à la faveur d'un triturage de neurones intenses que nous avons finalement eu l'idée de vous proposer un NTM consacré à Marseille. Et oui, la capitale du rap français entre IAM, Jul, SCH et les autres, mais qui n'est pas en reste question littérature. Et oui, il n'y a pas que le Marcel Pagnol qui s'est illustré en tant que personnalité littéraire dans la cité phocéenne, comme disent les journalistes, en mal d'inspiration. Marseille est une ville bouillonnante, qu'on aime ou qu'on déteste. C'est le Vieux Port, Notre-Dame-de-la-Garde, le Fort Saint-Jean, le Stade Vélodrome ou le Parc Borély. Nous le verrons, Marseille est une terre de rappeurs. Genre vraiment, hein, croire qu'il faut être né à Marseille pour percer dans le rap. Mais c'est aussi une ville qui a inspiré de nombreux auteurs depuis plusieurs décennies. Bien sûr, la renommée de cette ville ne se circonscrit pas seulement à la littérature et au rap, mais aussi au cinéma, ce qui peut être particulièrement éclatant ces dernières années. Il suffit pour s'en rendre compte d'aller pleurer devant les films de Guédiguian. Bref, j'espère que vous êtes prêts pour cette émission qui fleurera bon le pastis à petite dose et la pétanque à forte dose. En avant, et n'oubliez pas, bébé Paris c'est magique, bébé Marseille c'est mafieux. De qui est cette citation ?
SCH.
Bien sûr, SCH.
Évidemment.
Laetitia, je te laisse la parole.
Mais j'ai pas d'introduction, je vais démarrer de but en blanc. Moi, je vais tenter d'établir une sorte de cartographie du rap à Marseille autour de trois des figures les plus notoires. Donc IAM, SCH et Jul. Oui, on va parler de Jul, je ne pensais jamais faire ça dans une émission.
Ah, moi non plus.
En tout cas pas sous cet angle, mais en tout cas c'est fait. Donc sans transition, je vais commencer par vous parler d'IAM. Alors, IAM est un groupe fondateur du rap en France depuis 1988, donc ça commence à remonter assez sévère. Le groupe se compose de 6 membres, Akhenaton, Shuriken, Imhotep, Kéops et Freeman, jusqu'en 2008. Donc ce sont les premiers à avoir ouvert le rap à la province. Donc pour rappel, dans les années 1990 à 2010, le rap c'était quasi exclusivement à Paris. Et au début des années 90, c'était NTM à Paris et IAM à Marseille, point. En gros, c'était ça. Donc c'est grâce à IAM qu'on a regardé Marseille, et pas l'inverse. Le groupe s'est formé en 1988, donc, et a sorti son premier album en 1990, sur cassette. Et en 400 exemplaires. Donc oui, c'était une autre époque. Donc à cette époque, les codes du rap sont assez stricts. Il fallait avoir un groupe et venir des quartiers, si possible ceux de Paris. Donc Oxmo Puccino le dit très bien dans le documentaire consacré au Relsan, donc je le cite. Un rap français où ça s'affirmait est un rap français qui venait des quartiers. L'ambiance est au rap hardcore, fallait être méchant, fallait être arrogant, fallait que la musique, elle frappe. Donc même si c'est valable davantage pour le début des années 2000 que pour les années 90, voilà, malheureusement. Donc dans ce même documentaire, décidément c'est une mine d'or, Akhenaton explique qu'à l'époque, la clé était d'être programmé dans certaines salles, dans certains festivals. Il ajoute que très peu de concerts de rap étaient programmés et qu'il y avait encore moins de communication autour des événements liés au rap. Donc en gros, il n'y avait aucune affiche dans la rue. Et oui, il fut un temps où les réseaux sociaux n'existaient pas, un temps où il fallait soulever des montagnes pour se faire connaître. Le nombre de vues n'avait pas d'importance. Donc n'y voyez pas là une phase nostalgique de ma part. Je pense que c'est super que tout le monde se voit offrir un espace de visibilité avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pourtant, le marché est saturé d'offres, donc il est tout aussi difficile de se faire un nom. C'est peut-être même pire. Donc à chaque époque, ses difficultés. Bref, IAM sont les pères fondateurs du rap français. Ils ont dessiné les bases et les codes d'un genre qui est aujourd'hui plus écouté que tous les autres. Et puisque je ne vais pas vous faire écouter Je danse le Mia, qui est pour moi pas assez représentatif du groupe, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le célèbre morceau Petit Frère, sorti en 1997 sur l'album L'école du micro d'argent.
À jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos. faut comme mentor. C'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était camin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère veut des pierres. Je ne crois pas que c'était volontaire, l'adulte c'est certain. Indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Rêve de bagnole, de fringue et de thune, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames, dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes. Il veut jouer du revolver, petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Les temps ont changé.
Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes causes et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
C'était Petit Frère de IAM sur Radio Campus Montpellier, une chanson extrêmement puissante que j'ai eu la chance d'apprendre en cinquième. Et oui, c'est possible d'apprendre du rap.
T'as de la chance, nous on apprenait Jean-Michel Sardou, collège. Et comme ça. Tu
vois. Oh, j'ai dû apprendre des choses pas mal non plus, hein. Ne t'en fais
en
pas.
En musique.
Et oui, des cours mémorables. Alors je vais complètement changer de sujet, mais pas tellement quand même, avec un petit peu d'histoire littéraire du 19e siècle, parce que je sais que tu adores ça et nos auditeurs aussi. Au XIXe siècle, la ville de Marseille est mise en scène dans de nombreux récits très variés, d'auteurs différents. La délocalisation des intrigues dans des grandes villes de province est une dynamique courante dans ce siècle, et Marseille semble être une ville particulièrement attrayante pour cela. C'est une ville portuaire dont partent et arrivent de nombreux bateaux pour les colonies. C'est également une ville avec une bourgeoisie puissante qui contraste avec une population beaucoup plus modeste. Et surtout, et cela découle des deux points précédents, Marseille, c'est une ville cosmopolite dans laquelle sont brassées des populations de différentes origines, en particulier des populations provenant d'Afrique du Nord, des autres pays du bassin méditerranéen, voire de plus loin. Ces brassages de cultures font de Marseille une ville avec un caractère et une atmosphère unique, comme cela est encore le cas aujourd'hui. Il est donc normal qu'elle ait inspiré des écrivains. Alexandre Dumas et son Comte de Monte Cristo placent définitivement Marseille sous le signe du romanesque. La première partie de l'intrigue, jusqu'à l'emprisonnement d'Edmond Dantès, se situe effectivement à Marseille. Puis le héros est incarcéré sur l'île d'If, qui fait partie des îles du Frioul. Marseille incarne alors le lieu des promesses du héros au début du roman, avant d'incarner le lieu qui exclut, qui relègue au large. La maritimité de Marseille, ce mot existe, j'ai vérifié, la maritimité de Marseille devient donc un enjeu de roman. Marseille ne semble pas être une ville paisible dans la réalité, comme dans les romans finalement. C'est aussi ce que montre Émile Zola dans Les Mystères de Marseille, roman feuilleton mettant en scène deux amants qui ne peuvent vivre leur amour au grand jour. Marseille réapparaîtra brièvement dans un des tomes de la série littéraire des Rougon-Macquart, toujours d'Émile Zola, une page d'amour. D'ailleurs, cette fresque littéraire met en scène les familles Rougon et Macquart qui ont pour fief la commune fictive de Plassans, qui est en fait plus ou moins inspirée d'Aix-en-Provence, qui est un peu la rivale de Marseille dans la région, moins maritime et surtout plus riche. En matière de littérature du 19e siècle, on peut également citer la nouvelle Honorine de Honoré de Balzac. Honorine, Honoré, ça fait un petit peu redondant, hein, je l'avoue. Qui raconte les déboires conjugaux d'une jeune fille et qui se passe également à Marseille. Bref, cette tendance de mise en scène de cette ville continuera au siècle suivant, que ce soit avec Jean Giono, Albert Cohen ou Romain Gary. Et en faisant un grand bond dans le temps, on peut même citer le roman de Maëlys de Kerangal, Corniche Kennedy, qui date de 2008 et qui relate les aventures d'une bande d'adolescents sur cette célèbre plage marseillaise. Et je crois que, voilà, à propos de bande de jeunes, tu vas nous parler de SCH, c'est ça ?
Tout à fait. Formidable. Ou le roi, hein,
le roi, n'est-ce pas ? Le roi, on lui prévoit une émission. On lui prévoit une émission.
Ouais, une émission spéciale.
On fait un peu de teasing, ça en manque dans cette émission.
C'est vraiment juste un avant-goût, là, parce qu'il va falloir pas charbonner.
C'est ça.
Allez. Donc, originaire du 12e arrondissement de Marseille, il a quand même passé son adolescence à Aubagne, donc dans une ville de banlieue marseillaise. Donc, c'est un pur produit de son environnement. Ses textes sont imprégnés de son expérience d'individu en bas de l'échelle sociale. Sa mère était infirmière et son père était conducteur routier, je crois, et il est mort quand il était assez jeune. Donc de l'alcool aux drogues en passant par les armes et la précarité, l'univers de SCH se construit autour d'une figure de mafieux bien maîtrisée et qui connaît son sujet. SCH est reconnaissable par sa voix très particulière. Je sais pas, je dirais grave et piquante.
Mais
c'est impossible
ça.
De le confondre.
Un peu rocailleuse.
Ouais.
À l'image des grains de sable.
C'est vraiment difficile de décrire une voix.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Rocailleuse à l'image des rochers finalement qui bordent le vieux port, quelque chose de
tout à fait
de piquant, de voilà, je
piquant et mais de doux à la fois.
Mais de doux à la fois et d'harmonieux.
Je suis pas sûr qu'on peut dire doux pour SCH, mais bon. Et bien sûr, il est aussi reconnaissable par son style vestimentaire unique auquel il porte beaucoup de soin et d'importance. Donc d'ailleurs, je fais ici une petite parenthèse, donc en plus d'avoir un impact sur le rap, il a un impact sur la mode. Il est invité à tous les défilés et il influence les créateurs, hein, rien que ça. Donc il agrémente son allure d'une dentition faussement pourrie pour affirmer sa position de riche gangster qui en a bavé, mais qui a conquis le monde. Donc le premier Julius, sorti en 2018, vient affirmer son image et sa posture. L'album est un album concept dans lequel SCH aboutit son personnage de mafieux qui s'acquitte de ses ennemis, gère son business, amasse de l'argent et le montre. Donc les morceaux sont rythmés d'interludes dans lesquels on entend la voix d'un homme qui intervient comme un narrateur pour ponctuer les morceaux de contexte. Donc c'est le premier album qu'il a produit sous son propre label Baron Rouge, après avoir quitté son ancien label. Ils font tout ça, hein, ils finissent pour tous par quitter leur label et créer leur label. Donc Judith, avant de passer Marché Noir, comme je sais que tu l'adores, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur SCH ?
Alors, je dirais juste que je ne suis pas une grande amatrice de rap, d'habitude. Mm. Grâce à toi, j'en apprends énormément et je commence vraiment à y prendre goût, donc merci.
Franchement, ça me
sauce. C'est une des vertus de cette émission et de...
On se nourrit l'une l'autre,
voilà,
c'est
ça,
beau.
De ces conversations. Mais je trouve que dans SCH, il y a quelque chose de très... de presque un peu cathartique, parce que en fait on aime écouter les déboires de ce personnage en fait, Julius, qui est que SCH a déjà incarné dans deux albums
en
déjà.
En faisant notre vaisselle. On n'oublie pas qu'on écoute des oui, sons qui parlent de drogue, d'armes et d'assassinats.
Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'on se complaît à écouter les aventures d'un mafieux qui raconte quand même des choses extrêmement violentes, qui dit qu'il en a bavé, qu'il a roulé sa bosse, voilà, qui porte le flingue à la ceinture depuis son plus jeune âge. Et en fait, on aime s'identifier finalement à ce truand. Et je crois que, comme on ne peut pas vraiment le faire dans la vraie vie, on ne peut pas vraiment truander, en tout cas on ne vous encourage pas à le faire, il y a quelque chose de fondamentalement plaisant de s'identifier à ça. Et bon, après, ça nous mène vers des considérations beaucoup plus profondes et qui demanderait plus de temps en termes de narrativisation et de storytelling, mais voilà, c'est ça.
Il y a quand même une ambiance assez, assez sombre, mais énergisante en même temps, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, c'est ça, il y a un côté très solaire.
C'est exactement ça, ouais, c'est ça.
C'est ça, voilà. Très solaire chez SCH.
Bon, on écoute Marché Noir?
Oui.
Allez, c'est parti.
Je veux le tour de la terre, ce sera vite. Stupéfiant, compressé dans un coffre, une demi-tonne. Et le premier lion en lit est venu vite. Le crime paye, je suis aveuglé, je les vois à travers la bas-jour. Le bien triomphe pas toujours, tu le sauras si on vient t'étrangler. Un tocard pour la trêve, beaucoup d'amour, mais je fais la guerre. On prend du fer, s'il y a du fer, y'a des affaires, je fais des affaires. Mon égasque a saucissonné, y'a des rappeurs à rançonner. Moi je veux voir leur vrai visage, celui qui est pas étalonné. J'ai traversé la Sicile, on passe en moto et on 20h. J'ai des rancunes qu'on mijotait, la mort est servie al dente. Ressous en pendentif, j'ai la même foi que mes ancêtres. La prison m'envoie vers le riff, je revêtis le Stark aussi à le cintre. L'attaque comme la défense, un coup de poker nous rendra riche. Mes espèces sont le vaniche, on paye la caution en hachiche. J'aime toujours pas le caviar, servez-moi des pâtes au dîner. J'ai quelques feuilles en kevlar pour la balle qui m'est destinée. J'ai perdu la raison, et demain je te donnerai raison d'avoir vécu chaque putain de jour comme si c'était ton dernier. Si on passe pour se ticher, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Gros sommet, gros enjeu, y'a pas que toi qui es broliqué. Julius revient comme Chiro, mon esprit vit sur Chihiro. Théo voit son déchimère, j'ai le visage bleu devant les géros. Fioli putana, curé Glock sous la soutane. Une mère se jette sous un crâne et son fils a vécu le drame. Je bois le café dans l'arrière-boutique, je mets la pharmacie en gérance. La vie m'a rien vendu de logique, dis-moi. Et je me suis trouvé dans l'errance. Et j'ai demandé des réponses à des sourds muets. Revolver contre l'œil de bœuf, pour celui qui veut l'orner. Ce qui se passe dans mon portefeuille, crois-moi qu'il y a bien plus violent que te mettre du plomb dans le citron. Crois-moi qu'il y a plus virulent que le plus chaud de tout l'arrondissement. Ça pleure dans tout l'auditoire, on en fait pire que les aînés. Mes refonds provisoires seront pas là pour le délibérer. Hey, on vient dans le club, ça leur coûte un mois de cavale. Si tu es devenu bizarre, pour agir, je demande pas d'aval. J'ai rendu fou ma vraie, en vrai de vrai. J'ai rendu fier, en vrai de vrai. J'suis vrai de vrai, avec les miens, en vrai de vrai. Des glocks, on fait pas du breakdance. On casse ta porte au tonnerre. J'vous laisse putain de Mercedes, trois putes sur la banquette arrière. Toujours un peu la palpite, quand j'vois passer la Stasias. Des millions passent sous nos yeux, faut tirer son épingle du jeu. Ce soir un petit Melatrick, au grand Léonidas. Bébé Paris c'est magique, bébé Marseille c'est mafieux.
Et c'était Marché Noir avec 2 SCH sur Radio Campus Montpellier.
Grosse ambiance pendant le passage de
musique. Grosse ambiance, vraiment. On était déchaînés. J'étais déchaînée.
Oui, elle toutes les paroles. Cette femme me choque de jour en jour, mais bon.
Et oui, ce n'est pas moi qui ai choisi la vie de Tuck, c'est la vie de Tuck qui m'a choisi.
Tout à fait.
Voilà. faut l'accepter. Donc rien à voir avec ce dont je vais parler maintenant, puisque je vais m'autoriser une brève incursion dans le cinéma. Et oui, c'est ça la magie des arts, c'est qu'ils communiquent entre eux. Je vais vous parler de transit. Alors rien à voir avec la tisane que vous prenez en lendemain de soirée ou après avoir mangé une tartiflette, hein, non, puisque ça parle de Seconde Guerre mondiale et d'occupation. Et oui, vous vouliez un programme léger pour vous faire oublier l'actualité ? C'est raté. Bref, Transit est un roman allemand, et oui, publié en 1944 et écrit par Hans Segers, et qui met en scène différents personnages fuyant les nazis à Marseille, puisque la ville s'est trouvée en zone libre jusqu'en 1942. C'était donc un lieu d'exil et de transit donc vers d'autres pays pour une partie persécutée de la population, les juifs, les intellectuels, les opposants politiques, etc. Ce roman nous met dans la peau d'un jeune homme allemand qui a fui le régime nazi et qui, après une halte à Paris, est descendu jusqu'à Marseille. Il croise un ensemble de personnages différents, issus de milieux sociaux divers, au gré de ses pérégrinations dans la ville, une errance géographique mimétique finalement de son errance personnelle, lui qui n'est à sa place nulle part, en transit donc dans cette ville. Contrairement au terreau romanesque qui était exploité dans le Comte de Monte Cristo, Transit se caractérise par une mise en scène de Marseille qui représente un entre-deux, non seulement pour son personnage, mais aussi pour tous ceux qui ont transité par cette ville au fil des décennies. La ville apparaît comme le lieu de la fin d'un parcours, un lieu qui nous rattache à notre passé et la promesse d'un départ. C'est un lieu seuil, comme il en existe tant d'autres en littérature. Et ce livre donc a été adapté en film il y a quelques années par Christian Petzold en 2018, un film allemand réalisé par un Allemand avec une distribution allemande, comme quoi la renommée de Marseille dépasse les frontières. La particularité de cette adaptation, c'est qu'elle se déroule dans le Marseille contemporain, bien que l'intrigue continue de se situer pendant l'occupation. La mise en scène neutralise tout de même certains éléments, comme les costumes ou les accessoires, qui restent assez intemporels finalement, pour éviter de faire quelque chose de trop contemporain, mais qui met en scène la ville telle qu'elle était au moment du tournage. On voit donc les tours modernes, on voit le Mucem, on voit les aménagements récents, bref, on voit le Marseille de 2018. Si jamais tu te posais la question, en fait, les nazis sont représentés par des agents de la police et du RAID. Voilà, voilà, parce que tu fais de cette pas information. De commentaire. Cette transposition de l'occupation dans la cité phocéenne de 2018 provoque un effet saisissant. L'aspect immersif suscité grâce au point de vue interne et à l'identification au personnage plonge le lecteur dans une atmosphère saisissante et franchement glaçante. La ville apparaît comme un labyrinthe où se joue un jeu de chat et de la souris entre le personnage principal et les forces de l'ordre. La moindre ruelle est une possibilité de fuite, mais aussi un piège. Sa moiteur enveloppe le personnage dans une espèce de léthargie malsaine et dans quelque chose d'assez poisseux, finalement. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande si vous avez l'occasion de le voir. Donc c'est pas très drôle, mais en tout cas, pour la mise en scène de Marseille, c'est vraiment très intéressant.
Le titre du
c'est
film.
Transit.
Transit, ok.
De Christian Petzold. Okay. Donc voilà, c'est un film assez confidentiel, hein, comme on dit dans le jargon. Mais vraiment, juste pour voir cette espèce de mise en scène de l'occupation dans Marseille actuelle, ouais. c'est vraiment bien fait. Je crois qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus léger et de totalement différent, mais qui a comme...
Franchement, on n'est pas accordé.
Voilà, mais qui a comme point commun Marseille, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Marseille qui est...
C'est le sud.
Qui est notre fil d'Ariane.
Bisous Ariane.
Qui permet de faire le lien, la jonction entre tous ces sujets et de faire la jonction finalement entre le rap et la littérature.
Finalement, on voit aussi des époques différentes. Et c'est ça. Une cartographie de Marseille, voilà.
C'est donc ça.
Jules, c'est parti pour Jules. Donc il est inutile de le présenter, il paraît même qu'il est le descendant direct de Victor Hugo, croyez-le ou non. Donc originaire lui aussi du 12e arrondissement de Marseille, Jules est un véritable trésor national, du moins pour le sud de la France. Donc avec ses productions calibrées pour faire bouger des popotins, il a trouvé la recette parfaite pour faire danser la France entière. Celui ou celle qui prétend n'avoir jamais roulé des hanches ou hoché de la tête sur un son de Jules est quelqu'un qui ment. Jules, c'est aussi un self-made man ultra productif. Il fait tout seul, dans sa chambre, en claquette. Donc production, écriture, voix, enregistrement, communication, distribution, il fait tout. D'ailleurs, même quand il commençait le rap dans les années genre 2014-2015, c'était sur son ordinateur offert par la région, quand il était au lycée, avec des... je sais pas comment ça s'appelle, le cadre pour taper, faire des instrus, enfin bref, le truc pour faire des instrus, il avait acheté d'occasion, vite fait, avec son argent de poche, et il faisait ses instrus tout seul, enfin bref, c'est niqué. Donc j'en étais où. Donc sa discographie ne compte pas moins de 16 albums studio, 10 mixtapes, 34 singles, et pas loin de 70 feats. Donc tout ça depuis 2014, pour une moyenne de 2 albums studio, une mixtape gratuite, 4 singles et 8 featuring par an.
Ça fait
tous
beaucoup.
Les albums sont certifiés au minimum disque de platine. C'est colossal. C'est vraiment colossal. En février 2020, Jul est officiellement devenu le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, juste devant MC Solar. Donc, le dernier, c'est Rof. En première position, on a quand même Jul. Voilà. Bon, bref. Donc, à titre de comparaison, le groupe PNL a cumulé un total de 2 millions de ventes sur seulement 4 projets réalisés entre 2015 et 2019. Le groupe se situe à la 8e place du classement. Alors qu'il y a quand même 2 millions de ventes, et je crois que Jul, il est à genre 5 000, presque 6 millions de ventes en tout. C'est énorme. D'ailleurs, pour PNL, les gars, ça fait depuis deux frères qu'on vous attend. Donc c'était en 2019. Je voudrais pas vous presser. Prenez votre temps pour faire les choses correctement. Mais voilà, moi, je m'inquiète. Hein, on attend votre retour. Donc bref, Jul, qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est la recette du succès. On reconnaît immédiatement un son de Jul. Il a influencé beaucoup de rappeurs qui s'essaient à la même recette, mais il reste le seul à faire carrière dans son domaine. En effet, la diversité du style de Jul est limitée, ce qui limite aussi sa marge d'évolution. Les productions sont efficaces mais répétitives et les textes sont trop secondaires. On espère que son style viendra en nourrir ou en influencer d'autres. Et puis, de toute façon, il en faut un peu de la légèreté. Hein. Je vous mets au défi d'écouter la discographie de Kery James non-stop. On verra si votre santé mentale est toujours opérationnelle après ça. En tout cas, on peut applaudir presque 10 ans de carrière indépendante et fructueuse pour Jul. Qu'on soit d'accord ou non, que ça plaise aux puristes ou non, il aura influencé toute une génération en plus de marquer l'histoire du rap français au fer blanc. Et ça, ça se respecte. Donc on écoute tout de suite Feu en featuring avec Poupie. Enfin, c'est plutôt Poupie en featuring avec Jul, mais je l'aime bien.
En est fini, tu joues sur le feu. Je ne suis méchante que dans tes beaux yeux. On n'a pas changé, c'est toi. Toi, tu dis pas ce que tu veux. On a de la chance d'être là. Tu sais, mon temps est précieux. On n'a pas flanché, c'est moi. Je vais te faire des aveux. Je sais, c'est chaud d'être toi, mais être moi, c'est pas mieux. Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour. Et dans la liste de mes fautes de parcours. Tu connais, mais le feu, pas de longs discours. Et là, je prends l'air, on ne joue plus dans la même cour.
Quelle vie tu mènes? Le bonheur, les problèmes. Quelle vie tu mènes? Le bonheur, les problèmes.
Cherche pas entre nous, c'est magique. Mais y'a de la peine des fois. Chez nous on dit pas je t'aime par sympathie. Ouais, c'est avec amour les efforts. J'avais de la haine mais elle est vite partie. Ouais. Quand j'ai fumé le pet du soir, t'es le meilleur, c'est ce que ma maman dit. Ouais, alors j'mets le feu. J'mets le feu quand j'suis sur la scène. J'arrive en claquette dans le showcase. Comme si j'étais seul sur la terre. Comme si j'n'avais jamais sommeil.
Quelle vie que je mène. Le bonheur, les problèmes. Je vais mettre le feu comme Tony, je fume un pet sur les démons de minuit. Moi je sais pas danser comme Tony, je reste dans mon coin quand je fais l'alcoolique. Je m'en fous de tout, je suis ailleurs. Je m'en fous de toi et de lui. Et quand je suis bien, il me souhaite leur malheur. Mais moi je suis au top dans ma vie.
Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour. Et dans la liste de mes fautes de parcours. Tu connais, mais le feu, pas de long discours. Et là je prends l'air, on ne joue plus dans la mer. J'ai des envies d'été, je ne serai plus endetté. Je ne voulais pas te jeter, mais les gars ont des envies de thé. À 4 ans, je suis occupée, tu me trouveras pas sur le canapé. Non, maintenant que je pars, tu n'es plus une priorité.
Quelle vie que je mène.
Quelle vie que je mène.
Le bonheur, les problèmes.
Le bonheur, les problèmes.
Quelle vie que je mène.
Quelle vie que je mène.
Le bonheur, les problèmes.
Le bonheur, les problèmes.
Le pire pour nous. Et de t'avoir autour. Et dans la liste de mes fautes de parcours. Tu connais, mais le feu, pas de long discours. Et là je prends l'air, on ne joue plus dans la même cour.
Mmh.
Et c'était Feu de Jules en feat avec Poupi, ou comme disait Laetitia, Poupi en feat avec Jules. Bon, on aime ou on n'aime pas, voilà, c'est la pluralité des goûts, comme on dit. mais je crois que pour finir cette émission, on ne pouvait pas faire d'émission spéciale Marseille sans citer celui que je gardais très précieusement pour la fin et qui est l'évidence de l'évidence, Bernard Tapie. Non, je plaisante. Marcel Pagnol, ou devrais-je plutôt dire Marseille Pagnol.
Juste par contre, tu sais que Bernard Tapie, il a fait un morceau de rap non. avec Doc Gynéco
ah dans oui, les années 90. Ah oui, je crois 90. Que j'ai vu ça. Oh, Seigneur, on en apprend tous les jours.
Merveilleux.
Vraiment. Donc voilà, je rigole, hein, je voulais parler de Marcel Pagnol, l'homme, le mythe, la légende. Je suis née dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Telle est la première phrase, magnifique phrase, de la gloire de mon père, premier tome de son autobiographie, Souvenirs d'enfance. Né à Aubagne, comme SCH, en 1895, pas comme SCH, il passe son enfance à Marseille, où son père est instituteur, sans oublier les collines à côté de Marseille, qui font actuellement partie du 11e arrondissement, dans lesquelles il passe des séjours en famille, ce qu'il retranscrira dans ses souvenirs d'enfance, en liant cette période de sa vie à ces lieux. Après des études, il devient professeur d'anglais. Il a notamment traduit Le songe d'une nuit d'été, rien que ça. Enseigne quelques temps dans divers établissements du sud de la France, puis il monte à Paris, comme on dit, où il commence à écrire des pièces de théâtre qui deviendront des succès au fil du temps. La pièce Topaze lui permet d'accéder à la renommée. Elle raconte l'histoire d'un professeur qui a toujours été exemplaire et irréprochable et qui, suite à son licenciement, sombre peu à peu dans la malhonnêteté et en tire un certain plaisir. S'ensuit ensuite pour Pagnol le succès de la trilogie marseillaise, composée des pièces Marius, Fanny et César, qui sont encore connues aujourd'hui. Pagnol se tourne ensuite vers le cinéma, réalise des films comme Manon des Sources ou Ugolin. Il a aussi été académicien, élu en 1946 au siège 25. Il meurt en 1974. Dans ses films, ses pièces et ses romans, Marseille n'est jamais très loin, elle est même bien souvent centrale puisque la plupart des intrigues s'y déroulent. À travers ses œuvres, Pagnol brosse un tableau complet de la ville en mettant en avant certaines professions ou certains quartiers. Ainsi, dans Marius, le héros travaille dans un bar du Vieux-Port avant de s'embarquer sur un navire. Il aura eu le temps entre-temps de tomber amoureux de Fanny. Dans cette pièce, il y a également un personnage appelé Panis, du nom d'une spécialité culinaire provençale à base de pois chiches. Très bon, hein, voilà. C'est vraiment pas mal, note. Qu'on trouve d'ailleurs dans le quartier, lui aussi tout à fait marseillais, de l'Estac. Donc, chez Pagnol, Marseille, c'est plus qu'une source d'inspiration. C'est le lieu où tout se fait, où tout se noue, ou alors tout se dénoue. Souvent taxé d'écrivain régionaliste et quand même assez peu considéré par la recherche, même si cela tend à changer, je l'espère, Pagnol est intrinsèquement lié à Marseille, puisqu'il y a contribué, bien avant IAM, Jules ou autre SCH, à faire le soft power de cette ville. Une vision de carte postale, parfois, mais qui fonctionne aujourd'hui encore. Une image un peu désuète, hein, de lavande, de cigale et de pastis, mais qui contrebalance avec les discours qu'on entend et qui sont beaucoup plus violents sur cette ville, qui est, il faut le dire, pas non plus réductible à ces règlements de compte dans les quartiers nord. Grâce à Pagnol, Marseille et le parler marseillais ont acquis un statut certain, spécial et même très, très important. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette émission qui touche à sa fin ?
Mais quelle belle ville, Marseille.
Ouais, hein, quelle belle ville.
Enfin, j'ai pas aimé quand j'y suis allée, j'ai trouvé ça beaucoup trop dense pour une ville dans le sud. Mais bon,
ah, après, il y a des choses, choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Voilà, j'y étais il y a quelques semaines finalement. Ce n'est pas absurde, j'étais voilà,
quelques jours. Enfin oui, il y a la semaine dernière.
Deux semaines. Bref.
Okay, oh là là, tout, je perds la notion du temps, hein, c'est terrible.
Petit racontage de vie et de ville, finalement. Petit racontage de ville grâce à cette émission. Donc oui, voilà, une ville qu'on vous recommande. Et puis,
très colorée.
Voilà. Puis à défaut de pouvoir y aller, vous pouvez toujours la découvrir, que ce soit par le biais de rappeurs, d'écrivains, de films. Donc voilà, par le soft power de Marseille, qui est quand même assez puissant.
Oui, il rayonne pas mal, ouais.
Et voilà, d'ailleurs, c'est une ville qui a connu un boom touristique. À cause ou grâce à la pandémie, en fait. Mmh. Donc, une ville qui s'est retrouvée vraiment à la mode ces deux dernières années.
Bah, écoute.
Donc, voilà, à voir. Donc. L'émission se termine. Nous vous remercions de l'avoir écoutée. Vous pourrez la retrouver en podcast ainsi que les autres émissions sur le site de Radio Campus Montpellier à l'onglet Nique ta métaphore. Merci à Arnaud en régie. Et nous nous quittons avec Je danse le Mia d'IAM, qui n'est peut-être pas représentative du groupe, mais qui est quand même d'une époque.
Oui,
et ça, on aime bientôt.
Sûr.
Alors merci à vous et à bientôt.
Jeff Fada, je crée des gueux, je vous prenne tous ici un par un.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, Nebuloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Shalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via Planète Marseille, je danse le Mia.
Tu mets autant du fun que je danse le Mia.
Je danse le Mia.
C'est le pionnier enfant pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
Ce soir les bagues brilleront pour danser le Mia.
Je danse le Mia. Le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur pour elles c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose.
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure le frère aura piqué.
Oh comment tu parles à ma soeur.
Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, attends, je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8-73, JM120 mon petit. Du grand voyou à la plus grosse mon vietnamien sur le volant. Avec la moquette, par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros
sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une bille. On dansait le Mia.
DJ mets autant du fun que je danse le Mia.
Je danse le Mia.
C'est le pionnier à fond pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
Ce soir les bagues brilleront pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
DJ mets autant du fun que je danse le Mia.
On direct sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club. C'est tout de suite 3, 2, 1, DJ.
Bon, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laserlight Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des t-shirts Marlboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique c'est Michel, le light jockey c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, allez c'est parti.
Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclatés. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire
aïe aïe, 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 aïe